Bon, avec le préalable ou le point de vue juridique dont il a été question tout à l'heure, on a commencé par du dur, par du solide. Le droit, les lois interviennent généralement, et surtout quand il s'agit des questions du religieux dans l'école, à la suite de débats et de controverses souvent très, très virulentes, très vives et plus ou moins longues. On l'a bien vu avec la loi de 1905 ou par exemple la loi de 2004 sur le port ostensible des signes religieux. Et je dirais que d'une certaine façon, on peut prendre le droit, me semble-t-il, comme du politique cristallisé. C'est-à-dire qu'en fait, ces débats politiques se solidifient, se cristallisent par le biais de la loi ou des règles qui refroidissent ou en tout cas attiédissent les débats et qui suspendent provisoirement, bien souvent, les différends. Mais en même temps, on a bien vu tout à l'heure que la loi ne supprime pas, ne fait pas disparaître les tensions. Et prenons cet exemple, on le voit avec la loi de 1905. Si on considère les deux premiers articles de la loi de 1905 dont il a été question tout à l'heure, ils sont objet de multiples interprétations, car certains vont appuyer plutôt sur le respect de la liberté de conscience. Tantôt, on va appuyer plutôt sur la séparation et la non-reconnaissance des religions par la République. Et on sent bien que suivant que l'on appuie sur la liberté de conscience ou qu'on appuie plus sur la non-reconnaissance des cultes, on va pas tenir des positions politiques identiques. Je vais prendre un deuxième exemple. On a parlé tout à l'heure de la loi qui concerne le port, la manifestation, manifester ostensiblement l'appartenance à une religion. Comment se mettre d'accord, comment définir de façon stable l'ostensiblement dans la loi de 2004 ? Là aussi, il y a des interprétations, qu'est-ce qui est ostensible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il y a tout un travail social d'ailleurs sur lequel on va s'arrêter au fur et à mesure de mon intervention, tout un travail social et politique qui consiste précisément à faire bouger le curseur de l'ostensible ou le curseur des deux premiers articles de la loi de 1905. Par ailleurs, la loi, on l'a vu aussi, ne lève pas toutes les incertitudes concernant son champ d'application. Les espaces ont des frontières qui sont parfois floues. Le seuil, par exemple, dont il a été question aussi tout à l'heure. Comment ?
Entre le culturel et le culturel.
Alors, le culturel et le culturel, on y reviendra. Et il y a de multiples incertitudes, de multiples confusions aussi, concernant l'espace public, dont je vous fais remarquer tout de suite que bien souvent, on l'oppose à l'espace privé, en qualifiant les religions de privées, ce qui est, à mon avis, problématique. On va y revenir. Du reste, la loi, le droit, ne précise pas ce qu'on entend par religion. La loi de 1905 parle de culte, celle de 2004 d'appartenance religieuse. Alors, mon intervention va porter sur l'espace public et fait religieux. Je mets un S à fait religieux en milieu scolaire. Bon, je pense que j'ai été un peu imprudente en acceptant cet intitulé, parce que d'une part, ça suppose qu'on définisse, on en a eu des aperçus tout à l'heure, l'espace public, ce qui va être une grande partie de mon propos, et puis ça suppose aussi que l'on puisse qualifier un fait de religieux. Je vous signale que le syntagme « fait religieux » apparaît dans le débat public avec le rapport Debré de 2002. Auparavant, on parlait d'enseigner l'histoire des religions dans une démarche laïque. Ça, c'était le colloque fondateur à Besançon en 1992. D'autres proposent encore des démarches pédagogiques pour enseigner les religions. Je pense à l'ouvrage de Noya. Alors, pourquoi parler de faits religieux? Qu'est-ce qu'on peut qualifier faits religieux? Je crois que ça va être une question sur laquelle il va falloir s'arrêter un moment. Alors, je vais rajouter un terme compliqué entre faits religieux et espace public, qui est celui de laïcité. Je pense que c'est par le biais de la question d'un retour au fondement de la laïcité scolaire qu'on va pouvoir s'interroger sur le traitement des faits religieux dans l'espace public de l'école. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, et au fond, on en a eu déjà une préfiguration tout à l'heure, il y a plusieurs conceptions de l'espace public. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que la laïcité trace une frontière entre deux espaces publics. Et qu'elle institue et définit un espace public dans lequel les religions ont leur place et un espace public dans lequel les religions n'ont pas leur place. Ce qui conduit du coup, dans les établissements, dans les programmes, à opérer un tri entre les faits religieux qui conviennent dans un espace public et ceux qui ne conviennent pas dans l'espace public de l'école. Si vous souhaitez des précisions au fur et à mesure, vous pouvez m'interrompre, bien sûr. Alors, premier point, un bref rappel sur le processus de laïcisation. Dans un deuxième point, comment ce processus de laïcisation a conduit à définir un espace privé et deux espaces publics. Et troisième point, comment ça a conduit à un double traitement des faits religieux dans l'école. Bon, il y a une tension au principe même de la laïcité en France, et particulièrement de la laïcité scolaire. Premier pôle, on l'a rappelé tout à l'heure, je ne m'y arrête pas, le premier pôle, c'est la référence à la liberté de conscience, loi de 1905, et d'autres textes, évidemment. C'est très présent dans la charte aussi de la laïcité. Deuxième pôle, une considération d'ordre public permettant de limiter la liberté d'exercice des cultes. Troisième pôle, la séparation de l'espace républicain et des religions. Je vais commencer par la séparation, parce que c'est peut-être plus simple. On en a parlé tout à l'heure, c'est bien connu, la loi Ferry de 1882 substitue l'instruction civique et morale à l'instruction morale et religieuse. C'est l'article 1. Elle donne un jour de vacances, outre le dimanche, afin, je cite, de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Alors, en dehors des édifices scolaires, ça vaut, on l'a dit tout à l'heure, pour le primaire. Pour le lycée, c'est plus compliqué, dans la mesure où, à l'époque en tout cas, les lycéens étaient, on pourrait dire, clientèle captive, qui ne pouvait pas aller dans des lieux adéquats pour recevoir l'instruction religieuse. Donc la loi Ferry est d'abord une loi de séparation, déjà, de l'école en tant qu'institution publique et des églises, mais aussi de séparation des espaces, des temps scolaires. Il y a ce qui se passe dans l'école, ce qui se passe hors de l'école, il y a ce qui se passe pendant l'horaire scolaire et en dehors. Cette séparation, elle aboutit bien sûr à l'affirmation de la loi de 1905. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Son article 2. Donc loi de séparation, mais loi qui affirme l'une et l'autre la liberté de conscience. Je fais remarquer au passage qu'on ne parle pas de liberté religieuse dans ces lois, hein, même si c'est un terme qui est souvent utilisé dans des débats plus ou moins orienté. La loi Ferry libère le jeudi pour, je l'ai dit tout à l'heure, satisfaire le désir d'instruction religieuse, si les parents le désirent. On se souvient d'ailleurs à ce propos de la célèbre lettre de Jules Ferry à Monsieur l'instituteur, qu'il exhortait à ne froisser la conscience d'aucun père de famille par son enseignement de la morale. Bon, la seconde, la loi de 1905, stipule que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a deux pôles déjà là. On a un pôle de la liberté de conscience et on a un pôle qui serait donc une référence politique en quelque sorte à un principe de liberté et une référence politique à un principe qu'on pourrait qualifier d'intérêt général. Ces lois traduisent l'une et l'autre la volonté de constituer un monde abrité des divisions religieuses, mais aussi, il en était question tout à l'heure, des divisions politiques, voire la circulaire Janzet qui interdisait déjà en son temps le port de signes d'appartenance politique ou religieuse. Elle vise à permettre une vie en commun, quelles que soient les croyances particulières et les appartenances. Du reste, elles sont à mettre en lien aussi avec la Constitution qui affirme que la France est une république laïque indivisible, ce qui suppose qu'il n'y ait pas de reconnaissance de légitimité politique de communautés particulières ou de groupements particuliers. Je voudrais souligner encore ici les tensions qu'il y a entre ces définitions. Et tensions dont on a des exemples qui sont absolument manifestes actuellement, entre les tenants d'une laïcité, alors qu'on va appeler ouverte, libérale, parfois même interculturelle, etc. C'est-à-dire une laïcité qui serait orientée principalement vers un principe de liberté, et une laïcité qui serait principalement orientée vers un principe de communauté, d'indivisibilité et d'intérêt général. On en a des exemples, à mon avis, ça serait peut-être à analyser d'ailleurs comme ça, dans la fameuse confrontation récente entre la conception de Jean-Louis Bianco et la conception du Premier ministre Manuel Valls actuellement. C'est une tension qui traverse, je pense, le débat politique et qui d'ailleurs, au passage, traverse aussi les partis politiques. Bon, en discuter, si vous voulez, tout à l'heure. Alors, deuxième aspect, en conséquence, on va pouvoir, me semble-t-il, distinguer deux conceptions de l'espace public qui n'ont pas les mêmes implications politiques. Un espace, l'école, prenons le cas de l'école, on pourrait prendre, on l'a dit tout à l'heure, les autres institutions publiques, l'hôpital, la caserne, etc., etc. L'école a pu être dite publique dans la mesure où elle est ouverte à tous. C'est une première définition, qui est d'ailleurs dans la loi Ferry, puisque elle comporte aussi l'article sur l'obligation scolaire. Laïciser l'école, ça a été l'ouvrir à tous. Alors que, au passage, je rappelle que l'école publique n'était pas publique en ce sens-là dans la réforme de Guizot. Pour, à l'époque de Guizot, en 1833, l'école publique, c'est l'école qui fonctionne sur fonds publics. Après, l'école publique sur fonds publics peut être confessionnelle ou non confessionnelle. La grande nouveauté avec la loi Ferry, c'est que l'école publique devient non confessionnelle et gratuite, donc ouverte à tous. Indépendamment, ne faisant pas exception des personnes, pour parler comme Rousseau, hein, indépendamment des appartenances des élèves. Donc l'école est ouverte à tous. Mais il y a un deuxième sens de l'école publique dans les lois laïques. C'est que ce peut être aussi une école, un espace commun à tous, ce qui n'est pas pareil. Je vais expliciter ça. La laïcité de l'école et de la République constitue, dans le cadre de la laïcité, en régime de laïcité, un espace public neutralisant les religions. D'une part parce que aucune légitimité politique n'est reconnue aux religions, ce qui ne veut pas dire qu'on ne leur reconnaisse pas une reconnaissance sociale, une légitimité sociale, pardon. Et d'autre part, parce que l'intrusion du religieux dans l'école, ou des institutions religieuses dans l'école, serait un ferment de division. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de la laïcité en France, qui a été portée par les minorités, parce que effectivement, comme le disait un peu méchamment Bourdieu, les minorités ont intérêt à l'universel. Hein. Les guerres de religion avaient laissé des traces. Je ne vais pas m'arrêter sur cet aspect-là maintenant. Mais cette notion d'espace public de l'école est équivoque. D'abord, la laïcité ne renvoie pas les religions dans l'espace privé, au sens d'espace du fort intérieur, des choix personnels ou des intérêts particuliers. Elle reconnaît la liberté de conscience, donc elle reconnaît la liberté de croire ou de ne pas croire dans son fort privé. Mais les religions constituent ou s'inscrivent dans un espace public, d'une certaine façon. Il y a d'ailleurs, dans la loi de 1905, un article qui précise que on n'a pas le droit d'interrompre l'ordre public d'un culte quel qu'il soit. Entrer dans un lieu de culte, c'est un acte public, d'une certaine façon, puisqu'il peut être vu. Mais public dans un certain sens, c'est-à-dire public au sens d'un espace ouvert à tous. Il est interdit aussi d'interdire d'entrer dans un lieu de culte, par la loi de 1905. Donc, la loi de 1905 ne reconnaît pas la légitimité politique des religions, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les connaît pas. Elle les connaît puisqu'elle garantit leur exercice public et l'encadre par la loi si l'exercice du culte contrevient à l'ordre public. Alors il y a la grande majorité des articles de la loi de 1905 encadrent juridiquement l'exercice des cultes. Donc la religion, la République connaît les cultes, mais elle ne reconnaît pas qu'ils puissent être des puissances politiques en quelque sorte. Autre exemple, il a été question tout à l'heure de la circulaire de 2005, qui reprend du reste une circulaire de 1967. Les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession les autorisations d'absence nécessaires. Bon, très bien. Mais en même temps, la République se charge de faire la liste des confessions qui peuvent permettre l'autorisation d'avoir des absences. Alors on a les fêtes catholiques et protestantes, orthodoxes, arméniennes, musulmanes, juives, bouddhistes. Donc ça veut bien dire que, d'une certaine façon, la République s'occupe des cultes et elle définit les cultes donnant droit à autorisation de l'absence. Alors il semblerait que, alors, par exemple, les chiites n'y sont pas. On pourrait sans doute trouver d'autres religions qui n'y sont pas. Alors il semblerait que si des membres de ces cultes-là demandaient l'autorisation, demandaient que ça soit, dans la nomenclature, j'allais dire reconnu, non, dans la nomenclature, ils pourraient l'obtenir. Ce qui fait que la laïcité délimite, alors tout à l'heure il était question des cinq espaces de Eric Weil. Patrick Weil, pardon. La laïcité délimite, à mon sens, trois espaces. Je vous propose, on pourra le discuter, bien sûr. Il y a l'espace privé du fort intérieur, de la liberté de conscience, de la foi, de la subjectivité, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un espace privé, de l'intimité, de l'intime. Mais il y a deux, me semble-t-il, deux espaces publics. Un espace public dans lequel est en jeu, en principe, le bien commun, l'intérêt général, on est au niveau des principes, qui est l'espace de l'État, des institutions publiques, du service public, donc de l'école. C'est cet espace que l'on peut qualifier, bon, que je pourrais qualifier de politique, que s'appliquent les principes laïques de liberté, de séparation, de stricte nature, de neutralité. Donc, ce sont les institutions publiques, les services publics, les institutions de la République qui peuvent être dits laïques. C'est le champ d'application de la laïcité quand on regarde la multitude de textes qui ont accompagné la laïcisation. Mais il y a un autre espace public que je vais qualifier, donc je qualifie tantôt de sociétal, tantôt de civil, qui comprend les lieux ouverts à tous, sans être communs à tous. Par exemple, la rue, la place publique, le supermarché, tout ce que vous voulez, qui ne relève pas d'une institution républicaine et publique, au sens républicain du terme. Alors, on a noté que cette notion d'espace public a trouvé sa première traduction juridique dans l'article 1 de la loi de 2011 concernant la dissimulation du visage. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Et la loi précise, la notion d'espace public concerne la voie publique, les espaces ouverts au public et ceux affectés à des services publics. Donc, cet espace public ouvert à tous n'est pas soumis au principe de laïcité, mais de tolérance, d'acceptabilité d'un certain nombre de comportements ou de sécurité. Ça a été une confusion de faire de la loi concernant la dissimulation du visage, qu'on a appelée souvent la loi concernant le niqab, d'en faire une loi de laïcité. La société n'est pas laïque, mais c'est l'école, la République, l'Assemblée nationale, tout ce que vous voulez, qui sont laïques et laïcisés. Tout au plus, la société, et encore, est-elle sécularisée ? C'est-à-dire dans la mesure où on observe un retrait du religieux dans les sociétés sécularisées. Encore faudrait-il, entre parenthèses, et c'est intéressant quand on s'interroge sur les rapports aux religieux, encore faudrait-il préciser que la sécularisation, chez nous, est assez largement sectorielle. Il y a des quartiers, un peu partout, il y a des quartiers qui échappent en partie à la sécularisation et qui restent régis par des règles et des normes religieuses. Donc, ce que je distingue, c'est un espace public commun à tous, qui est l'espace qu'on pourrait appeler politique des institutions républicaines, et un espace qu'on peut qualifier de sociétal ou civil, qui est soumis à des règles d'urbanité, de civilité, et que l'on peut définir par référence à un principe de tolérance. Donc d'un côté, principe de tolérance, et jusqu'où on tolère des comportements que l'on estime discutables, et puis d'un autre côté, un principe de laïcité pour l'espace public au sens de l'espace public républicain. Autrement dit, quand certains dans les établissements scolaires manifestent leur conviction, leur appartenance religieuse, refusent des enseignements au nom des écritures, au nom de la vérité divine, ils contreviennent à la laïcité. Mais manifester ses convictions et ses appartenances dans la rue peut seulement être considéré comme une offense au vivre ensemble, comme un obstacle à la communication. Je pense à tous les débats qu'il y avait pu y avoir sur le niqab, un obstacle à l'égalité et à la symétrie des relations humaines, tout ce qu'on veut, une menace à la sécurité. On peut les juger contraires à la sécularisation, mais pas à la laïcité. Je signale que la confusion entre espace privé, espace public politique républicain et espace public civil sociétal est persistante dans le débat public. Alors à cela s'ajoutent des incertitudes dont il a été question un peu tout à l'heure. Trois espaces, c'est bien gentil. Ferry disait un jour, écrivait que si on traçait la bonne frontière, tous les problèmes seraient réglés. Ferdinand Buisson affirmait dans l'article dont il a été question tout à l'heure, le curé dans son église, le maire dans sa mairie et l'instituteur dans son école. On sait bien que les gens passent d'un lieu à l'autre, d'un espace à l'autre. On sait bien que les frontières sont floues. Et il y a là tout un travail d'interprétation et de discussion, notamment dans les établissements scolaires. Je pense à quelque chose qui s'est un petit peu, même largement calmé depuis que la loi de 2004 est passée. Les premières affaires dites de foulard islamique, après Creil, il y en a eu dans la région aussi. On estimait bien souvent que le foulard, qui était parfois accompagné de prosélytisme absolument évident, n'avait pas lieu d'être dans l'établissement. Mais l'une des solutions d'attente trouvées par certaines équipes de direction, c'était de mettre la jeune fille portant le foulard dans le CDI. C'est-à-dire qu'on trouvait un espace qui n'était ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même. Un espace qui, alors ce n'était pas l'espace de l'enseignement, donc c'était un espace qui était à la limite d'un espace privé, d'un espace ouvert à tous, dans la mesure où les élèves pouvaient y circuler en dehors des heures de cours, ou parfois même pendant. Bon, voilà. Même incertitude sur la cantine. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir si la cantine, c'est l'école ou pas. Et est-ce que dans la cantine, les règles convenant à la laïcité doivent s'appliquer ou pas ? Bon, là-dessus aussi, je crois que les débats ont quand même avancé. Je n'ai pas vu récemment de discussion sur le CDI. Et sur la cantine, maintenant, je pense qu'on y voit assez souvent un prolongement de l'école d'une certaine façon. Mais avec aussi l'incertitude, est-ce qu'on doit y faire du commun Alors, en plus, avec toute la symbolique du repas et du copain qui partage son pain, est-ce qu'il doit partager aussi autre chose que le pain? Et puis, toute la problématique de la liberté, de l'intime, manger un plat interdit, c'est pas seulement appartenir à une communauté religieuse, etc., mais ça touche aussi à l'intime, au dégoût, au goût et aux couleurs. Bon. Incertitude aussi sur les limites de l'espace scolaire. On l'a bien vu tout à l'heure avec la question des sorties scolaires. Est-ce que la sortie scolaire, c'est un prolongement de l'école? Et à ce moment-là, indépendamment du statut de la mère portant son foulard, est-ce que, indépendamment de cette question-là, c'est un espace dans lequel les règles de laïcité doivent s'appliquer? On pourrait prendre encore un exemple que vous avez probablement aussi, dont vous avez aussi probablement connaissance, la visite de lieux culturels, la visite d'église. Est-ce que visiter une église, c'est contrevenir à la foi de certains élèves? Alors, on sait qu'il y a eu pas mal de dissensions sur ces questions-là, d'élèves ne voulant pas entrer, par exemple, dans une cathédrale, parce que c'était un lieu de mécréants. Le dernier point, j'ai peut-être accéléré.
Oui,
cette définition d'un double espace public, et cette définition d'une séparation introduite par la laïcisation conduit à un double traitement, me semble-t-il, des faits religieux dans l'école laïque. On a évité, je disais tout à l'heure, que certains, à une époque, parlaient d'enseignement de l'histoire des religions. On sait que l'effet pervers, c'était de transformer l'enseignement relatif aux religieux en un enseignement des guerres de religion et des conflits. Ça avait été un des obstacles majeurs pour éliminer cet intitulé-là. Le terme de religion, alors enseigner les religions à l'école, ça va poser un problème d'équilibre entre les religions et puis d'autre part, ça ne simplifie pas la question prégnante dans un certain nombre de classes de la distinction entre le domaine de la foi et le domaine du savoir, pour dire les choses très vite. On a donc opté, à la suite du rapport Joutard et du rapport Debré surtout, on a opté pour l'intituler « Faits religieux ». Françoise Landau m'a donné quelques indications tout à l'heure, mais en fait ça ne simplifie pas beaucoup les choses de parler de faits religieux. Qu'est-ce qui permet de qualifier un fait de religieux ou pas religieux? Alors je suis retournée à Durkheim. Il y a un texte tout à fait intéressant que vous trouvez sur Internet, dans la Bibliothèque des sciences sociales, hein, qui est un site canadien qui a numérisé des grands classiques des sciences sociales, et un texte qui est intitulé « De la définition des phénomènes religieux ». C'est un article de 1898. Durkheim se demande comment définir, alors il parle tantôt de phénomènes religieux, tantôt de faits religieux. Puisque la sociologie religieuse traite des faits religieux, elle doit commencer par les définir. Nous disons les faits religieux et non la religion, car la religion est un tout de phénomènes religieux. Le tout ne peut être défini qu'après les parties. D'ailleurs, il y a une multitude de manifestations religieuses qui ne ressortissent à aucune religion proprement dite. Il y a dans toutes les sociétés des croyances et des pratiques éparses, individuelles ou locales, qui ne sont intégrées dans aucun système déterminé. Donc, il prend une définition avec l'empan le plus large possible. Et il pense que l'on peut décomposer les religions en fait religieux, alors ça va être des croyances, des pratiques, des rites, un certain rapport au sacré, même si toutes les religions ne comportent pas exactement cela. Et bizarrement, d'ailleurs, la dimension politique des religions est pratiquement absente dans ce texte. Alors même que pour les fondateurs de l'école publique, elle était principale. On se souvient de la fameuse affirmation à l'Assemblée nationale de Jules Ferry disant qu'il n'avait rien contre le catholicisme, mais qu'il avait contre le catholicisme politique. Et la question des religions politiques aujourd'hui, la dimension politique des religions, est une question vraiment très, 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 très chaude. Hein. Donc d'un côté, il va chercher un certain nombre. D'un autre, mais ça nous laisse une liste, et ça laisse à l'appréciation des acteurs, une liste quasiment infinie. Hein. Qu'est-ce qui peut être dit religieux ou pas ? Je vais y revenir. Et puis, son deuxième mouvement, après ce mouvement de décomposition, c'est un mouvement d'objectivation. Il affirme qu'il va traiter les faits religieux comme les faits sociaux, dont chacun sait, il fait un renvoi implicite, hein, chacun sait qu'il les traite comme des choses. Alors, il est clair qu'on ne peut plus être positiviste aujourd'hui, et que les faits religieux, on ne va peut-être pas les aborder comme des choses en classe, mais en même temps, je crois que cette dimension de l'objectivation est une dimension importante. En premier problème, qui est un problème de qualification des faits religieux, bon, certains sont incontestables. Si des parents, par exemple, dans une sortie scolaire, une mère d'élève en profite pour faire du prosélytisme, on est face à un fait religieux. Bon, si elle a simplement un foulard, on ne sait pas si c'est un fait esthétique. Vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, il devait y avoir, comme l'année dernière, une journée du hijab à Lyon, qui a été interdit par la préfecture, et vous avez sur Internet un film de jeune fille qui, l'année dernière, dans le centre de Lyon, ça devait être en face du printemps, par là-bas, enveloppait les dames qui passaient, qui l'acceptaient, avec beaucoup de précautions, on se serait cru dans un salon esthétique. Bon, là, le hijab, on nous affirme au fond que c'est joli, quoi, c'est joli. Mais est-ce que c'est seulement joli ou est-ce que c'est un objet religieux ? La question est bien souvent ouverte et on sait que ça a été l'objet de toute une série de discussions, surtout au début d'ailleurs de l'apparition des foulards dans l'école. C'est ma pudeur, c'est mon goût, c'est mon choix, avec effectivement une rhétorique de la liberté pas seulement de conscience, mais de la liberté de la femme à être séduisante avec le voile. Bon, est-ce que le voile c'est ça ou est-ce que c'est autre chose ? Comment qualifier le voile ? Je pense que les débats de qualification du voile sont beaucoup moins fréquents qu'ils ne l'étaient, par exemple, au début des années 90. Si ça vous intéresse, j'avais fait un texte dans la Revue française de pédagogie, en 91, je crois, que j'avais appelé « Pénélope et Jules Ferry ». Je ne vous dirai pas ça de pourquoi pour tout de suite. Bon, il y a des faits qui sont aussi qui sont équivoques. Par exemple, la réticence ou le refus de l'évolutionnisme. Il y a un créationnisme à fondement scripturaire, lecture littéraliste de la Bible ou du Coran. Pas de doute. Mais il y a aussi un créationnisme spontané. Une étude récente montrait comment des jeunes étudiants sont assez spontanément créationnistes, indépendamment de toute appartenance religieuse. J'ai dit tout à l'heure, le halal, est-ce que c'est une affaire de goût ou est-ce que c'est une affaire religieuse ? Les deux à la fois. Donc un problème de qualification. Un problème de mise à distance du religieux et du... Alors peut-être pas d'objectivation au sens durkheimien, et de séparation entre ce qui relève de la foi et ce qui relève du savoir. Ça c'est aussi c'est une question chaude dans les classes, bien souvent. Un problème de traduction, j'appellerais ça comme ça, de traduction laïque du religieux. Alors, on peut traduire le religieux en termes de culture religieuse. Ça avait été au début des réflexions sur l'enseignement relatif aux religions dans l'école, la fameuse expérience du lycée Buffon. Je ne suis pas arrivée à retrouver la date exacte, ça devait être 89, 88, 89, par là, qui le chef d'établissement, partant dans l'introduction, son préambule, de l'histoire d'un élève qui avait confondu le Saint-Sébastien de Mantegna en pensant que c'était un Indien victime de la conquête de l'Ouest. On a été très sensible à cette époque-là à l'inculture religieuse des élèves, et on a développé une conception en quelque sorte patrimoniale, quoi, du religieux. Pour comprendre la littérature, pour comprendre l'art, il faut avoir des connaissances concernant les religions. Pour comprendre aussi l'histoire, on en a parlé tout à l'heure, on a besoin de connaître les référents religieux des différents peuples et des différentes époques. Les recherches actuellement, à mon sens, ne disent pas grand-chose sur les règles de traduction et de ce que j'appellerais une scolarisation du religieux. Le religieux a besoin d'être scolarisé pour convenir à l'espace public laïque, au sens d'un espace commun à tous. Bon, pour terminer, je crois que j'ai épuisé mon temps, pour terminer, juste un mot quand même sur le lien entre une approche de type socio-politico-philosophique de la, du religieux, des faits religieux dans l'espace public de l'école. Je voudrais revenir juste un moment sur la question du droit. J'ai insisté sur les incertitudes des acteurs, sur les controverses, sur... cette question du religieux comme question brûlante, même pas question chaude, question brûlante. Dans un premier temps, les établissements scolaires ont essayé de calmer le jeu, de pacifier, de stabiliser les situations en évitant le débat politique et en recourant à l'hygiène et à la sécurité. À cette époque-là, ce qui était aux avant-postes des questions de laïcité dans les établissements, des affaires de laïcité dans l'établissement, c'était bien souvent les profs d'éducation physique et les professeurs de physique-chimie, au nom de la sécurité et de l'hygiène. J'ai eu des descriptions terribles du risque que pourrait comporter le foulard islamique quand on monte à la corde et qu'on peut s'accrocher au crochet qui soutient cette corde. Bon, le risque aussi en chimie de brûler, etc. Ce qu'a apporté, me semble-t-il, la loi de 2004, c'est d'avoir stabilisé les choses en proposant, en se proposant comme une ressource. Ressource que les chefs d'établissement, notamment, appelaient depuis très longtemps. Hein, depuis la fin des années 89, ils en appelaient à l'État pour promulguer une loi permettant de régler et de ne pas tomber dans le cas par cas, ce qui se produisait encore à cette époque. Mais une ressource, alors une ressource pourquoi ? Ben parce que, ça a été dit tout à l'heure, la loi n'est pas négociable. Et effectivement, la loi de 2004, elle a pacifié les choses. Mais en même temps, elle n'a pas suspendu les différends. Et donc, et en même temps, les lois sont toujours sujettes à interprétation et à débat.